midi, on en jase à Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h, on en jase.
13h14 minutes sur Québec. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 101. Je vous invite à rester avec nous parce qu'on va avoir une discussion super intéressante avec Emmanuel Briton, médecin dans le coin de l'Outaouais également. Martin Forgue, un haut placé au niveau du ministère de la Santé, mais qui s'est fait tasser parce que lui, il disait ça n'a pas de sens, la loi 2, puis ça n'a pas de sens comment qu'on va aller faire ça. Donc, on va revenir en discussion avec eux. On en avait parlé durant le processus. Et également, par la suite, Pascal, on va vraiment avoir une discussion super intéressante. Une discussion, moi, que j'ai eue personnellement avec mon garçon, c'est-à-dire de quelle façon les gangs criminalisés viennent recruter les jeunes. Et là, ça peut aller jusqu'à des jeunes qui ont l'âge de 11 ans. C'est la professeure titulaire à l'Université Laval en Faculté des sciences de l'éducation, Isabelle Dufour-Fortin, qui a mené une large étude auprès de jeunes criminalisés entre 18 à 35 ans. Ça a donné froid dans le dos comment les gangs criminalisés attirent les jeunes puis font en sorte que ces jeunes-là se ramassent en prison, se ramassent à être arrêtés et des fois ont commis l'irréparable. Donc, c'est les deux sujets qu'on vous offre pour le dernier 45 minutes. Restez avec nous, ça va être deux conversations tellement intéressantes.
Oui, puis je suis très contente d'aller parler du problème, de la graine du problème en matière de crime organisé, parce que souvent on oublie cet aspect-là, et d'aller parler à nos deux prochains invités, parce que ça fait partie de ces conversations qu'on avait avant même que le projet de loi 2 soit lancé sur place et fasse tellement de grabuges et de dommages dans lesquels on va avoir des répercussions sur des années de temps. Ils ont eu le courage de parler à visage découvert à de nombreux médias. Puis moi, ça, je chalue ça parce que je sais à quel point c'est complexe et tu sais à quel point c'est complexe dans leur métier.
Exactement. Donc, on va rejoindre la docteure Emmanuelle Briton ainsi que Martin Ford, cadre au niveau du ministère de la Santé. Madame, messieurs, comment allez-vous?
Bonjour, bien merci de nous recevoir.
Ça fait plaisir.
Ça va bien.
Excellent.
Ça va mieux.
Oui, c'est ça. Merci à vous de votre courage. Bon, toutes ces perturbations-là pour un grand recul de la part de François Legault. Ma première question, c'est est-ce que le mal est fait cependant? Est-ce que justement le lien de confiance est complètement rompu entre les médecins et le gouvernement de la CAQ?
Mon premier commentaire, je voudrais quand même saluer le courage du premier ministre d'avoir corriger ce mauvais projet de loi qui allait créer le chaos. Alors, il faut quand même saluer cette correction-là. Maintenant, à votre question, est-ce que le mal est fait? Il va falloir rebâtir et ça va prendre plusieurs années à rebâtir, les effets collatéraux. Et, ma collègue, Dr. Emmanuel Breton, pourra en parler dans quelques minutes de la situation en Outaouais précisément parce que cette région a été durement affectée par l'adoption de la loi 2. Mais il y a aussi toute la relation de confiance. Le premier ministre a des cibles à atteindre dans l'entente qu'il a obtenue et aussi la collègue du Trésor ont obtenue avec la Fédération des médecins et praticiens du Québec. Mais il y a toute une longue relation de confiance qui devra s'établir à nouveau entre les autorités et les médecins pour pouvoir poursuivre et recommencer ce qui avait été mis en place depuis 2023-2024, c'est-à-dire s'assurer d'une prise en charge, d'assurer un service et des soins à l'ensemble de la population du Québec. Et ça, ça doit se faire ensemble. Puis vous comprenez qu'il y a une fracture majeure. Ça va prendre du temps avant que cette fracture-là soit guérie.
Le projet de loi n'a pas eu le temps de rouler, n'a même pas eu le temps d'être appliqué officiellement, qu'on a rebroussé chemin. Du moins, on a gelé, en fait, ce qu'on avait mis sur la table. Mais les dommages collatéraux sont là. Pourquoi ils sont là? Comment est-ce qu'on peut en parler actuellement de ces dommages-là dans le système de santé?
Je peux peut-être me lancer une première réponse, puis Martin, tu peux compléter si tu le veux. Je vous dirais les dommages collatéraux, les dommages ont commencé à être ressentis dès l'annonce du projet de loi. Antérieurement, ce qu'on l'a nommé, c'est toute une démarche de transition. On savait que le statu quo, tous ensemble, puis quand je dis tous ensemble, c'est pas juste ici nous deux, mais tous les acteurs de santé, de patients, proches, médecins, mais tout professionnels inclus. On savait que le statu quo devait changer. C'est vers ça qu'on s'en allait en collaboration, puis vraiment dans une dans un moyen d'engagement, de mobilisation, de confiance, d'écoute, d'aller jusqu'à l'échelle là, de la clinique, le projet innovateur qui a besoin d'être entendu d'une région du Québec à l'autre, comment on arrive à s'appuyer sur les gains qu'on a eus, mais de l'optimiser. Les GMS sont là pour rester. Comment on les améliore? Comment on les modernise? Comment on élargit les champs de pratique? Le gap a été une solution qui devait évoluer vers quelque chose d'autre. On parlait souvent du nouveau modèle de soins. Donc, c'est vraiment toute cette confiance-là aussi, cette collaboration-là qui a été détruite parce que dès l'annonce d'un projet de loi, on arrivait avec une mesure coercitive. On parle souvent des bâtons, des carottes. C'est pas dans mon dialogue, mais c'était pas nécessaire à même l'avoir de cette façon-là. Puis de se retrouver avec plusieurs articles, plusieurs éléments qui ne répondaient pas nécessairement aux besoins des équipes pour arriver aux mêmes objectifs. Ben, déjà là, en partant, il y a eu des éléments, des dommages collatéraux. Puis plus on se faisait avancer, on se faisait dire qu'on ne comprenait pas. Le nombre de webinaires, d'annonces, à un moment donné, on s'est dit, ça suffit. Toute l'intelligence collective du Québec et maintenant au Canada, et ça s'est rendu à l'international, se disait avoir des soucis par rapport à plusieurs articles, plusieurs éléments, plusieurs moyens qui avaient été mis de l'avant. Et donc, il y a tout cet élément-là aussi de confiance, mais de rigueur et de respect et de valorisation qui a été mis fortement de l'avant à se dire, écoutez, avec quoi on gère ici, là? Parce que si toute la communauté scientifique, patients inclus, se disent, ça suffit, stoppez, faisons les choses différemment, ben, c'est incroyablement dommage qu'on est arrivé à plusieurs mois que selon moi étaient non nécessaires et évitables. Et là, effectivement, avec le recul que l'on a, maintenant, l'incendie, on a l'impression, avec la première annonce, que l'entente doit être votée et acceptée, on a un brin de soulagement et d'espoir. On se dit, bien, l'incendie, on espère qu'il est capté et qu'on va arrêter de l'étendre. Puis après ça, bien, une fois l'entente conclue, bien, il va falloir, puis j'inclus ici celles et ceux qui ont rédigé puis qui ont tenté d'imposer le projet de loi 106 et la loi 2, de prendre le temps de regarder en face les blessures qu'ils ont laissées pendant les derniers mois, de les reconnaître, les cicatrices qui sont bien réelles, et d'en faire un bilan honnête. Parce que les derniers mois sont à revoir et surtout à ne plus jamais refaire si on va rebâtir cette confiance.
Le Parti conservateur du Québec ce matin a réclamé la démission du ministre de la Santé, Christian Dubé. Croyez-vous que Christian Dubé doit démissionner justement pour bâtir le lien de confiance et réparer les blessures?
On va laisser les politiciens jouer leur rôle et laisser ce débat-là au niveau de l'Assemblée nationale. Par contre, je vous dirais ceci. Il y a aussi des hauts dirigeants du ministère de la Santé qui doivent faire un exercice d'introspection. On a un rôle comme haut fonctionnaire, c'est de conseiller nos élus. Et parfois, ça demande du courage managérial. Et assurément, quand on regarde les difficultés qu'ils ont eues à présenter le projet de loi, les écueils aussi, il y avait beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments qui étaient remis, où la crédibilité, où on pouvait percevoir un manque de rigueur qui faisait en sorte que c'était difficile pour l'ensemble de la population de comprendre quels étaient les objectifs de la loi 2. Alors, il y a une réflexion, et j'appelle ces gens-là à faire un exercice d'introspection, pas juste au niveau politique. Le gouvernement l'a fait clairement, le premier ministre et la ministre responsable du Conseil du Trésor l'ont fait puisque la loi 2 n'est plus ce qu'elle était. On est revenu à ce qu'on avait fortement recommandé, c'est-à-dire de faire des ajustements pour permettre un changement de la rémunération, ce qui était déjà un consensus au niveau de la communauté médicale. Et l'objectif d'aller de l'avant dans un nouveau modèle que l'on préconisait, mais c'était justement de prendre en charge l'ensemble de la population du Québec. Hein, on vous l'a dit lorsqu'on a échangé avec vous il y a plus d'un mois, c'est-à-dire qu'on faisait l'analogie avec l'école, c'est-à-dire des gens sur un territoire, mais on souhaitait à terme que ces gens-là puissent consulter les cliniques qui sont à la proximité, voir soit un physiothérapeute, un médecin, toujours en fonction de votre besoin, toujours en fonction des délais. Alors, on s'en va là, c'est ce que le gouvernement a décidé de faire. On peut encore une fois que le saluer. Puis, aux autres personnes à faire leur réflexion durant la période des fêtes.
Est-ce qu'on pense que ça va être mieux pour la suite des choses, mis à part sur quoi on va retravailler? L'attitude qu'a eu le gouvernement dans tout ça est l'attitude que le gouvernement a eue dans tout ça. On a rebroussé chemin parce qu'on pensait que la communauté allait appuyer le gouvernement et non la communauté de la santé en général, des médecins. Est-ce qu'on sent que c'est authentique comme réaction?
Oui, je crois que ils ont réalisé, ça a pris un certain temps, réalisé le chaos est en train de s'installer. Des gens près de moi là, ont été même sollicités, des médecins. On parle beaucoup de l'Outaouais, mais d'autres médecins dans d'autres régions pour se offrir. Je vais donner un exemple, là, un médecin de famille dans une région du Québec s'est fait offrir pour aller travailler au Nouveau-Brunswick 250 000 salaires annuels, pas de frais de bureau, et 50 000 $ pour frais de déménagement. Alors, les autres...
La compétition est féroce!
On est la seule province au Canada qui a cette attitude-là avec nos médecins. Il va falloir qu'on arrête. La pénurie touche l'ensemble, c'est mondial, c'est pas juste au Québec, la situation là, la population vieillit, notre espérance de vie est plus longue, alors c'est majeur, puis là, il va falloir arrêter de parler de rémunération que des médecins, tout le monde, tous les professionnels ont eu des majorations de salaire significatives, ont un actuaire qui gagne plus le salaire qu'il gagnait il y a 10-15 ans. Même chose chez un ingénieur, etc. C'est la seule profession où on établit aussi souvent ce salaire-là. Puis le salaire qu'on rapporte, puis là, je prends le temps de le préciser, là,
ouais, allez-y.
On parle de la rémunération brute. On ne soustrait jamais les frais de bureau. Région de Québec, région de Montréal, ça me donne une idée, le coût là, des loyers. Là. Mm-hmm. Ces médecins doivent payer des loyers. Donc, arrêtons de parler de la rémunération parce que quand on la sort sur la place publique, c'est un salaire brut. Ça, puis là, passons à autre chose. Il faut bien les rémunérer, nos médecins. C'est majeur. Le travail qu'ils font, c'est notre vie qu'ils ont entre leurs mains. Puis, ils sont pas plus rémunérés que bien des médecins. De plus en plus, les médecins gagnent à peu près la même chose d'une province à l'autre. Alors, on peut-tu passer à un autre sujet, puis plutôt voir comment on peut s'assurer d'une prise en charge pour l'ensemble de la population.
Pour rappel, on parle avec la docteure Emmanuelle Britton et Martin Ford qui travaillent respectivement comme médecin conseil et directeur général adjoint au ministère. Ils se sont fait bâillonner parce qu'ils étaient à l'encontre de la loi 2. Et justement, Madame Britton, j'ai une double question pour vous. La première, c'est tu plate d'être rendu au 15 décembre puis de se dire « Ah ah, je vous l'avais dit, le gouvernement. » Puis il y a combien de médecins en Outaouais qui vont quitter parce que vous aviez essayé de prévenir mais que le gouvernement ne vous a pas écouté?
C'est une très bonne question. Je vais me limiter aux réponses que M. Fogg vous a données. Effectivement, je suis aussi dans que certains doivent en tirer des leçons. Je vais le laisser ainsi. Ceci dit, l'exercice des derniers mois, comme j'ai dit, était évitable et non nécessaire, mais on y a vu une immense mobilisation et solidarité, pas juste entre médecins, étudiants, résidents, médecins de famille, spécialistes, mais la communauté qui s'est levée aussi, les autres professionnels, le barreau, les collèges, allant du Québec au national. Fait que je suis toujours quelqu'un qui espère de regarder quelque chose de positif dans quelque chose d'aussi désastreux qu'on a vécu dans les derniers mois. C'est quelque chose qui peut en tirer, c'est bien ça. Et ça, je crois que ces liens tissés-là entre nous tous doivent nous permettre de pouvoir, une fois confiance et réconciliation, de pouvoir rebâtir le tout ensemble. Je me permets, avant d'embarquer dans votre deuxième question sur les médecins en Outaouais, parce que j'ai saisi le micro de le dire, puis je veux toujours le réaffirmer aujourd'hui. À mon retour de l'Ontario en 2017, je l'ai vu et je le vois encore. Il faut se le dire, au Québec, ensemble, on a tout ce qu'il faut pour élever la médecine de famille à son plus haut niveau. Puis si on arrive à le faire, ben, c'est des générations de patients, de populations qu'on arrive à desservir. Le savoir, il est là. l'humanité, elle est là, l'innovation, l'intelligence collective, fait qu'il faut la porter plus loin. Comment la porter? Ben effectivement, comme vous dites, il faut qu'il y ait du monde pour la porter, cette vision-là. Puis l'Outaouais a été fortement marqué. Je la suis de près. C'est surtout nos dirigeants en Outaouais qui le font, mais Dr. Marcel Guilbeault, comme directeur médical du territoire, a bien porté l'information. On était à une quarantaine de médecins qui avaient déjà entamé des démarches officielles pour quitter, puis une autre cinquantaine qui étaient dans des démarches avancées. Ce qu'on entend, c'est effectivement tenter de freiner cet exode, cette hémorragie des 50 qui était avancée, mais avec l'annonce déjà de vendredi, on espère que la démarche commence à évoluer vers non un départ, mais de rester au Québec. Puis pour les quarantaines, ben c'est à voir dans leur démarche. C'est sûr, s'ils ont déjà signé des contrats avec d'autres hôpitaux, d'autres établissements ailleurs, c'est difficile de retirer parce qu'on s'est engagé. Donc, est-ce qu'il y en a quelques-uns parmi ceux-là qui étaient à la signature, mais qu'on les attrape avant que ça soit complété, on l'espère. Donc, les prochains jours vont pouvoir nous en dire plus.
Au moins, on vous sent encouragé, puis on le sait, quand vous ne l'êtes pas, vous le dites. Ça peut nous rassurer un peu pour la suite.
Très intègre, oui.
C'est ça, exactement. Pour la suite
des choses. Le moral des troupes, comment ça va sur le plancher?
Je dirais le mot qui ressort, c'est « irréel ». On est un peu dans, tu sais, le premier, c'est un brin de soulagement et d'espoir qu'on puisse revenir à une approche initiale, mais savoir effectivement tout ce qui est à rebâtir, puis le lien de confiance, comme on n'arrête pas de le dire, et un peu irréel. Je vous dirais, là, on retient notre souffle dans les prochains jours à voir. Là, on a une semaine pour voter pour cette entente-là. Puis après ça, ben une fois l'entente signée, il va falloir avoir effectivement des gestes très concrets. C'est une chose de l'avoir sur papier, de l'avoir en assemblée, mais il va falloir le vivre. Et donc, j'espère avoir des actions et des gestes très concrets à très court terme pour que cet espoir et ce soulagement-là ben, se concrétisent en quelque chose qu'on ressent pour de vrai. Mais je vous dirais, on le sent déjà, là, un soulagement puis un espoir.
Et je termine l'entrevue avec une question pour M. Faure. Est-ce que Santé Québec a une quelconque responsabilité dans ce qui est arrivé ou ils étaient complètement à l'écart de ceci?
Complètement à l'écart. Hein. Santé Québec, le mandat, c'est vraiment d'opérationnaliser. Alors, ils reçoivent les orientations du ministère. Ceux qui ont orchestré ce projet, cette loi et le projet de loi 106, c'est 100% le ministère de la Santé. C'est la direction du docteur Stéphane Bergeron avec ses deux directeurs généraux qui ont rédigé et conseillé le ministre dans le cadre de ses travaux et cette loi.
Madame Britton, Monsieur Fogg, on vous remercie, comme le disait Pascal, pour votre très grande franchise et transparence. On se tient au courant, retour des fêtes. J'aimerais bien qu'on se parle après le vote de vendredi, à savoir comment justement tout ça se joue sur le terrain, puis si on voit vraiment des améliorations palpables dans le processus, pour que, on le rappelle, le but, c'est que le plus de citoyens possible aient un médecin de famille au Québec. C'est ça l'objectif, il ne faut pas le perdre de vue.
Très grand merci de nous accueillir.
Ça fait plaisir. Merci à vous. Passez une belle fin de journée. C'était Dr. Emmanuel Britton, qui est médecin de famille dans la région de l'Outaouais. Martin Forgue, ex-haut placé au ministère de la Santé. Les deux avaient été bâillonnés parce qu'ils disaient non, on ne s'en va pas à bonne place avec des pénalités sur des objectifs de performance, avec des pastilles de couleur qui mettaient les enfants naissants en pastilles vertes. Tu n'as pas besoin de médecine quand tu viens de naître, voyons donc. Tu n'as pas besoin de suivi du tout. Tous les parents savent donner un vaccin, Pascal.
Ça me faisait
halluciner. Tu le sais, toi, qui va avoir des enfants plus tard, tu le sais qu'il m'a donné un vaccin?
Ben oui.
Ça te rassure?
Ça me faisait halluciner, moi, à ce moment-là, quand il disait « Crime, on a été sorti des consultations, on a été sorti des discussions parce qu'on challengeait le projet. Mm-hmm. » Je sais que... Moi, je ne suis pas une personne qui dit « Ah, la vengeance, hein, ça fait du bien, là, c'est comme une vengeance. » Mais la vengeance est un plat qui se mange froid. Là.
Tellement.
Pour un projet qui, je pense, on pense, nous évaluons qui peut-être est dans une incidence de se faire réélire, d'aller très vite dans quelque chose pour avoir l'air de des sauveurs du système de santé, de mettre cette carte-là sur la table, finalement, c'est un désastre qui va avoir des dommages collatéraux sur des années de temps. Parce qu'on n'avait déjà pas un surplus de médecins de famille. C'est déjà extrêmement difficile de faire choisir un jeune comme compétence en médecine, d'aller en médecine familiale.
Vraiment.
Parce que toutes les raisons du monde. Tout est plus intéressant. Puis pour les prochaines années, là, le projet, comment il va être retravaillé, Jeff, ce qui me fait peur, c'est qu'on ne prenne pas chacune des spécialités puis qu'on ne fasse pas en sorte de trouver comment est-ce qu'on va rendre ces spécialités peut-être plus performantes, peut-être mieux dans le système. Il ne faut vraiment pas les reprendre en masse. Parce qu'un médecin de famille, il ne peut pas aller selon la performance.
Non.
Il faut qu'il prenne le temps que ses patients, faut qu'ils comprennent. Une personne âgée en 15 minutes n'est même pas rendue sa table d'auscultation.
En plein ça.
On n'est pas là, là. L'auscultation n'est pas commencée en 15 minutes, tu comprends?
Non.
Puis d'autres spécialistes peuvent aller plus vite puis à la performance un peu plus. Mais il faut y aller étape par étape. C'est ça qui est triste. Le gouvernement ne fait pas ça.
Non, et donner les moyens justement à ces médecins de famille-là. On va se refaire une jasette, c'est sûr, avec Emmanuel Britton et Martin Fogg. Après la pause, on se fait une deuxième conversation très intéressante parce que ça va être Isabelle Dufour-Fortin, professeure titulaire à l'Université Laval en faculté de sciences de l'éducation. Elle a mené une grande recherche auprès de jeunes qui sont criminalisés. Elle va nous apprendre comment les jeunes sont justement recrutés par le crime organisé. Ça va vous permettre, vous en tant que parent, vous en tant que jeune, de prévenir justement l'irréparable. Ça va être à l'émission On en jase sur Boulevard 101 après cette courte pause.